Bonsoir, bienvenue dans les Bulles Nomades, le podcast créatif et slow. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow. Et pour la bulle nomade du mois de septembre, de la rentrée, je me suis dit que ce serait un excellent moment pour aborder une nouvelle fois le sujet épineux de la charge mentale. Alors qu'elle pourrait bien saturer avec la reprise de toutes les activités d'un coup autour du mois de septembre. J'ai choisi ce moment pour vous en parler, mais soyons honnêtes, pour des adultes indépendants, la charge mentale est un sujet intéressant à explorer tout au long de l'année. Donc j'espère que cette bulle nomade sera une ressource dans laquelle piocher au fil du temps. Et en plus, la discussion fait miroir avec la bulle nomade numéro 189, publiée au début de l'été sur l'espace mental, où là je vous parlais de faire la place pour faire une pause pour l'été. Et là du coup on se parle de reprise de charge mentale et de comment gérer la charge mentale à la rentrée. Et alors l'ironie, c'est que ce podcast j'enregistre une semaine plus tard que prévu, puisque la semaine dernière ma charge mentale était saturée et ne m'a pas permis de rajouter l'écriture et l'enregistrement du podcast en même temps que toutes les autres tâches que j'avais. Donc c'est un sujet qui est on ne peut plus contemporain et pertinent dans ma vie d'artiste indépendante et dans ma vie d'adulte. Du coup je me suis dit que c'est peut-être un sujet qui sera pertinent pour vous également en ce moment. Et c'est aussi une autre raison pour laquelle j'ai décidé d'aborder le sujet ce mois-ci, de le réaborder parce qu'on a déjà parlé de charge mentale dans les bulles nomades, c'est sûr et certain, c'est que lors de mon introspection estivale, ce fameux moment où j'ai fait de l'espace mental pour faire le point sur ma vie, sur mon organisation, sur mes ressentis, mes besoins, etc., j'ai remarqué qu'en fait, ces derniers temps, j'ai un sérieux problème de charge mentale au sein de mes activités plurielles. Pour le résumer, mon problème actuel, qui est je pense assez commun, notamment pour les personnes multipotentielles ou plurielles comme moi, nous qui poursuivons de nombreuses activités différentes dans notre vie, au lieu d'avoir, entre guillemets, simplement un travail et une vie de famille et c'est tout, je dis entre guillemets parce que rien que ça, c'est pas simple pour autant. Mais quand on se lance dans plein d'autres projets, ça fait justement plein de charges mentales en plus. Et mon problème actuel, c'est justement que j'ai trop de choses à penser et à suivre en parallèle et mon disque dur intérieur sature. En gros, au quotidien, pour vous donner un aperçu, je dois bien sûr penser à ma mission de communication, on va y revenir en fin de podcast, qui est le travail qui paye mes factures. Et bien sûr, je dois également penser à ma vie familiale et domestique, comme tous les adultes. Mais je dois également penser à mes romans en tant qu'écrivaine, mes illustrations et les autres projets artistiques en tant qu'artiste pluriel. Je dois penser à ma maison d'édition Café aux Étoiles. Donc en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'éditrice, je dois penser aux projets en cours. Notamment, il y a un appel à texte qui est en cours en ce moment sur le sujet du Hope Punk pour la partie littéraire de la maison d'édition. Il faut aussi que je pense à la boutique de Café aux Étoiles où je sors régulièrement de la papeterie créative. Il faut aussi que je pense à tenir ma chaîne YouTube, donc penser aux prochaines vidéos qui vont sortir sur YouTube. Il faut que je pense à mes deux lettres d'information, celle de Florie Taylor et celle de Café aux Étoiles. Je dois penser à animer ce podcast Bulle Nomade que vous écoutez présentement. Je dois penser à nourrir la page de mécénat Patreon, celle qui me permet de recevoir un soutien financier pour les contenus gratuits que je propose, pour ne pas avoir à reposer sur leur modèle publicitaire pour continuer à proposer tous ces contenus. D'ailleurs, un grand merci à tous les mécènes qui me soutiennent. Je suis également jury pour un concours annuel qui s'appelle le prix Alain Le Buffy, qui est un concours de nouvelles de science-fiction. Je dois gérer la collaboration avec Camille, qui est la community manager qui s'occupe de l'Instagram de Café aux Étoiles, et plein d'autres choses encore que je ne vous liste pas. Ça va? Parce que moi, là... Quand je relis toute la liste, rien que de la lire, je suis en saturation là. Donc en fait, ce problème de charge mentale m'est arrivé un petit peu à mon insu parce que j'ai commis une grave erreur quand j'ai évalué la charge de travail que je pouvais gérer dans le temps dont je dispose, et donc quand j'ai fait des choix d'accepter, de refuser, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, dans quel projet je m'engage, etc. La grave erreur que j'ai commise, c'est que j'ai confondu charge de travail et charge mentale. La charge de travail, ce sont les actions concrètes, les tâches qui vont prendre un temps défini. Par exemple, envoyer un communiqué de presse au journaliste, filmer une vidéo YouTube, enregistrer un podcast, répondre aux mails, descendre la boîte mail, tout ça c'est une charge de travail. La charge mentale, ce sont tous les sujets qu'il faut suivre au quotidien, les sujets auxquels il faut penser, sur lesquels on va être sollicité au fil de la journée, au fil de la semaine, et qui du coup viennent occuper notre cerveau en fait. Ah, faut que je pense à ci, est-ce que j'ai pensé à ça? Ah, il y a ça à faire, etc. etc. Et en fait, ce que j'ai découvert, l'erreur que j'ai commise, que je suis en train de découvrir, c'est qu'un projet peut très bien prendre relativement peu de charge de travail effective, mais par contre coûter une charge mentale monstrueuse. Parce que dans le cadre de ce projet-là, il faut se rendre disponible, il faut penser à des actions régulières, il faut suivre d'autres personnes et s'assurer qu'elles aient bien compris et fait leur part du travail parce qu'on encadre quelque chose, ou alors on va avoir des responsabilités auxquelles il faut penser régulièrement, etc., etc. Et moi, j'ai commis l'erreur d'évaluer mes tâches en fonction du temps effectif de travail que j'anticipe que ça va me prendre dans la semaine, et sans anticiper la charge mentale, le tampon en fait de charge mentale que ça me bouffe en fait. Je vous invite à écouter le podcast d'Esther Taïfé qui s'appelle Se sentir bien. Il y a notamment un épisode qui s'appelle Charge de travail versus charge mentale que je vous invite à écouter si vous voulez écouter une discussion complète sur ce sujet, sur cette distinction charge de travail, charge mentale. C'est un podcast qui m'a ouvert les yeux quand je l'ai écouté. Et il est en français, c'est un podcast francophone. Donc je vous invite à écouter cet épisode si le sujet vous intéresse. Pour en revenir à la question de la charge mentale et de comment la gérer, la constatation que j'ai donc aujourd'hui en cette nouvelle période de rentrée, c'est que si j'ai bien réussi à rationaliser la charge de travail depuis la rentrée dernière, donc depuis un an, grâce à la mise en place d'une organisation sereine et savoureuse, et vous pouvez aller écouter cette démarche que j'ai mise en place l'an dernier à travers les bulles nomades de l'automne dernier pour en écouter davantage sur ce sujet. Donc j'ai réussi un petit peu à canaliser ma charge de travail effective dans mon agenda aujourd'hui, mais j'ai en revanche un vrai problème de charge mentale. Pour vous donner une métaphore, j'ai trop d'onglets ouverts en même temps dans mon cerveau, trop de sujets à suivre en parallèle, trop de choses à penser, trop de projets à jongler en même temps, et je ne m'en sors plus. Et donc même en priorisant les projets et en appliquant mon organisation sereine, qui est par ailleurs très efficace et j'en suis ravie, malgré les pauses que je me suis accordées cette année, l'été introspectif où je me suis donné de l'espace mental, j'ai un cache de choses à penser et à suivre trop important. Et j'ai ressenti qu'il fallait faire quelque chose quand j'ai commencé à me sentir un petit peu trop submergée et débordée, que je commençais à oublier des choses, etc., etc. Du coup, cette rentrée, j'ai décidé de mettre en place un système pour réduire activement ma charge mentale au quotidien, et je vais vous parler des différentes pistes que j'explore depuis quelques semaines. La première, c'est un petit mot sur le minimalisme numérique ou mon rapport aux réseaux commerciaux, puisque c'est peut-être une énorme source de charge mentale d'être présent sur de multiples canaux, de penser à consulter les diverses apps, de penser au contenu qu'on veut créer sur chaque plateforme, etc., etc. D'un point de vue professionnel, en tant qu'artiste indépendante, le choix que j'ai fait depuis un moment déjà, c'est de limiter au maximum les canaux pour limiter la charge mentale minimum que prend chaque canal par sa simple existence. Ça prendra toujours moins de charge mentale de ne pas avoir de compte du tout sur un canal, plutôt que d'en avoir un, mais de ne pas l'animer. Même si vous ne passez pas beaucoup de temps effectif dessus, le fait même de faire des recherches sur le canal pour savoir un petit peu comment l'animer, comment ça marche, quelles sont les règles sociales de ce canal-là, de prendre le temps de l'ouvrir et de réfléchir à « Ah oui, c'est vrai que j'ai par exemple un compte TikTok qu'il faut que je pense à mettre une vidéo de temps en temps dessus. » Rien que ça, il y a une charge mentale minimale, en fait. Même si on ne publie pas une vidéo par jour dessus. Donc j'ai remarqué que la solution la plus simple, c'est de ne pas ouvrir de canal, ni professionnellement, ni en tant qu'utilisatrice d'ailleurs. Donc du coup, en tant qu'utilisatrice, franchement, à part Instagram, on va y venir, j'utilise pas les réseaux commerciaux du tout. Et en tant qu'artiste, en fait, j'ai un site vitrine avec les informations capitales auxquelles les gens peuvent se référer quand ils en ont besoin. Donc floriteller.com en l'occurrence. J'ai une lettre mensuelle que j'envoie en tant qu'artiste et une autre que j'envoie en tant que maison d'édition. Et puis la maison d'édition a aussi son site vitrine caféauxétoiles.fr. J'ai une présence communautaire sur la plateforme Discord. La maison d'édition dispose de son serveur dont le lien est dans les notes de l'émission si ça vous intéresse. Et les mécènes de Patreon disposent d'un salon privé supplémentaire. Et en fait le but de ce Discord, c'est d'avoir une présence en direct avec vous. D'avoir en fait une partie de communauté pour les personnes qui aiment ce genre de discussion en direct et qui sont présentes sur le serveur, ça me permet d'être disponible sans la barrière d'un algorithme, d'un réseau social qui va faire que je ne vois pas tout. Sur Instagram, j'ai remarqué que je ne vois pas tous les messages en fait. Il y a des choses qui sont filtrées par Instagram sans que je le sache. C'est très pénible. Du coup, avec Discord, je me rends disponible sur un canal et si vous voulez venir discuter, poser des questions, etc., avoir des infos en direct sur différentes choses, et ben, y a le salon Discord pour ça. Notamment par rapport à la boutique de Café aux Étoiles, lorsque les envois sont prêts, lorsque je suis passée à la poste pour envoyer toutes les choses et tout, j'en parle en général sur Discord. Voilà une présence que j'ai choisi d'avoir. Et enfin, Café aux Étoiles dispose d'un seul canal de réseau commercial qui est Instagram, qui sert avant tout de portfolio en fait de ce qu'on propose, puisque les ventes sont éphémères. Si vous ne savez pas comment marche la boutique de ma maison d'édition, elle n'est pas ouverte toute l'année, sauf pour les produits 100% numériques, mais pour tout ce qui est aquarelle originale et papeterie créative. La boutique n'ouvre qu'une fois tous les 4 à 6 semaines, pendant une semaine. Et moi, après, ça me permet... Justement, c'est aussi d'ailleurs un choix que j'ai fait, entre parenthèses, pour limiter ma charge mentale, pour pas avoir la charge mentale de penser à aller voir les commandes tous les jours pour imprimer une commande et aller à la poste à chaque fois. Là, ça rassemble la charge mentale sur une semaine. Pendant une semaine, je communique sur la boutique, j'ouvre les pages produits, j'imprime les commandes à mesure qu'elles arrivent, et puis j'envoie tout par la poste une fois que toutes les lettres sont prêtes. C'est un choix que j'ai fait en tant que personne qui travaille toute seule sur une boutique en ligne. Si on était plusieurs, on pourrait faire autrement, mais là j'ai pas le choix. Et donc du coup, comme la boutique n'est pas ouverte toute l'année, si quelqu'un découvre la maison d'édition et veut savoir ce qu'on propose, et que la boutique est fermée, ben, du coup vous voyez pas ce qu'il y a. Et donc du coup sur Instagram, il y a des photos et des petites vidéos, des choses comme ça qui montrent nos stickers, qui montrent même par exemple les aquarelles qui ont été vendues depuis. Donc du coup comme elles sont vendues, je peux plus les montrer. Bah, au moins il y a un peu un historique en fait sur Instagram qui permet de découvrir un petit peu ce qu'on fait en tant que maison d'édition. Et puis c'est un canal qui nous permet d'entrer en lien avec les créateurs et les créatrices de contenu. Par exemple, les bookstagrammeurs et les bookstagrammeuses, le jour où on sortira la collection de Café Lité, on pourra venir directement leur parler sur Instagram ou les taguer, ou que eux nous taguent s'ils font des revues de nos livres, etc. Pareil pour les créateurs et les créatrices qui utilisent le bullet journal ou la papeterie créative, à qui on peut être amené à envoyer des stickers. Et bah s'ils les utilisent et qu'ils font des stories sur nos stickers, ils peuvent nous taguer parce qu'on a une présence sur Instagram, vous voyez. Et pour alléger ma charge mentale sur le sujet, je délègue l'animation de notre compte Instagram à Camille, qui est notre community manager. Donc ça, c'est une option pour alléger la charge mentale, qui est de déléguer certaines responsabilités, et notamment les responsabilités qui coûtent beaucoup de charge mentale, parce que c'est pas naturel, moi qui suis introvertie, gérer des réseaux commerciaux, c'est pas naturel pour moi, c'est pas quelque chose qui me nourrit en termes d'énergie, c'est quelque chose qui me draine en termes d'énergie. Donc c'est très logique pour moi, en tant qu'artiste introvertie, de venir déléguer le community management à quelqu'un dont c'est le métier, et qui sera déjà plus efficace que moi et puis qui va avoir une personnalité beaucoup plus à même. Camille, elle est extraordinaire, elle est gentille, elle est humaine, elle a beaucoup de cœur. Merci Camille si t'écoutes le podcast. Et du coup, ben, elle, ça lui permet de pratiquer son métier et de faire des choses qui la nourrissent en tant que community manager. Et moi, ça me permet de déléguer quelque chose qui au contraire me pèse énormément au quotidien. Et c'est quelque chose, donc ça c'est une première piste pour alléger la charge mentale, de déléguer des choses. Et c'est quelque chose que je fais aussi dans la sphère domestique, où, par exemple, mon mari est en charge de tout ce qui concerne notre copropriété. Du coup, c'est lui qui gère et moi, je suis pas au courant. Voilà. Enfin, pour moi-même, le rapport aux réseaux commerciaux, pour boucler la parenthèse minimalisme numérique version 2023, mon rapport avec les commerciaux, réseaux commerciaux est le suivant. Donc, j'ai décidé de limiter les canaux au maximum, ou plutôt de les limiter au minimum, pour limiter la charge mentale. Et j'ai décidé d'être là où mon réseau social, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire les gens que je connais, sont. Puisque la base quand même de ces réseaux, ce n'est pas censé être les algorithmes et la publicité, c'est quand même censé être la connexion avec notre réseau, nos différents cercles sociaux en tant qu'être humain. Hein. Donc du coup, je suis revenue sur Instagram cette rentrée après pratiquement un an d'absence en tant que Floriteller sur le réseau. Donc Instagram Floriteller est à nouveau actif, mais alors de manière bien slow. Hein. Si vous voulez un exemple de compte Instagram slow, vous pouvez venir voir Floriteller. Il se passe pas grand chose. Parce que du coup, mon objectif n'est pas un objectif de calendrier éditorial, de poster tant de photos par semaine, de me forcer à sortir tant de vidéos courtes toutes les semaines. Ouh là là, faut publier une fois par jour, sinon l'algorithme il est pas content, tatitata, ça... Non, c'est fini. Plus jamais. Mon objectif avec Instagram en tant qu'utilisatrice, c'est uniquement d'être disponible d'un point de vue de lien humain. Donc j'allège ma charge mentale en réduisant au minimum les obligations de choses à penser qui sont liées à ce réseau. Je me connecte quand je veux. Je traite les commentaires et les interactions sociales en premier, puisque c'est le but premier de ma présence sur Instagram. Et si j'ai le temps de faire rien de plus, eh ben je fais rien de plus. Je publie quelque chose seulement si j'en ai envie, s'il y a une photo qui est disponible, si je suis inspirée et si ça me fait plaisir. La publication sur Instagram ne devient pas une source de charge mentale. Et j'interagis avant tout avec les autres. C'est-à-dire que je vais partager les publications des gens qui m'inspirent, je vais le repartager dans mes stories, je vais venir mettre un petit commentaire sous une publication de temps en temps, je vais mettre un petit like sur les publications de mes proches. Voilà, c'est vraiment une approche sans pression, sans chiffres, sans obligations, sans rien à penser à propos d'Instagram entre deux connexions sur l'app en fait. Quand je ne suis pas connectée à Instagram, je ne pense pas à Instagram. Voilà. Aujourd'hui, je m'y connecte à peu près une à deux fois par semaine. Je publie pas forcément quelque chose à chaque fois et ça me convient très bien comme ça. Pourquoi j'ai choisi Instagram ? Parce que j'ai réalisé que c'est la seule plateforme où tous mes cercles sociaux sont présents en fait. Tous les gens que je connais sont pas forcément présents, mais tous mes cercles sociaux sont représentés sur Instagram. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de familles, ma mère, mes tantes, des cousines, etc., qui sont sur Instagram. J'ai mes amis actuels et d'anciens amis, genre des amis de fac, etc., où quelque part, si j'ai pas l'Instagram, j'ai plus de nouvelles de leur vie, en fait. Instagram, c'est le moyen de garder un lien avec eux. J'ai aussi un lien avec des anciens collègues sur Instagram. Il y a aussi mon réseau professionnel actuel qui est sur Instagram, que ce soit d'autres artistes indépendants, d'autres auteurs et autrices de fiction de l'imaginaire, d'autres maisons d'édition indépendantes, d'autres petites marques indépendantes que j'ai envie de soutenir dans l'écosystème des artistes indépendants. Il y a aussi les gens du jeu vidéo, tout ce qui est cosplayer, fan artiste, etc. Comme c'est des choses très visuelles, en fait, ils sont tous présents sur Instagram. Les bookstagrammeurs sont tous présents sur Instagram. Même les youtubeurs et youtubeuses que je suis en tant qu'utilisatrice, il y en a beaucoup qui ont seulement un compte Instagram ou c'est le seul réseau sur lequel ils sont présents aussi. Mes collègues de la communication sont présents sur Instagram. Les agences de com qui sont des clients passés, présents, futurs sont sur Instagram. Donc voilà, autant vous dire, pour boucler le sujet Instagram, que j'ai choisi ce canal parce que c'est celui qui remplit le plus le besoin que j'ai identifié, à savoir une présence dans mes différents cercles sociaux et la création d'un lien humain duquel je me suis sentie un petit peu trop coupée quand j'ai quitté totalement les réseaux commerciaux en tant qu'utilisatrice. Et pour finir avec Instagram, j'ai découvert récemment qu'il y a maintenant une option suivi qui apparaît en fait quand vous cliquez sur pour vous en haut à gauche, une petite flèche à côté de pour vous et vous avez d'autres options qui se déroulent et notamment une option qui s'appelle suivi et si vous cliquez dessus, vous allez voir les publications comme c'était en 2014 à l'époque, des gens que vous suivez dans l'ordre chronologique, sans algorithme, sans pub, sans publication suggérée, juste vos abonnés en fait, enfin vos abonnements. Et maintenant, je vous avoue que je n'utilise plus que ce menu et ma boîte de réception de messages privés. En gros, je regarde les notifications de commentaires pour pouvoir répondre aux gens qui mettent des commentaires sur mes publications. Je regarde ma boîte de messages privés et je regarde l'option suivi, donc les publications des gens que je suis, et je ne regarde plus du tout la page d'accueil avec l'algorithme, et ça me fait un bien fou. Voilà pour la parenthèse minimalisme numérique du podcast. Ensuite, en termes d'organisation pour alléger la charge mentale, voici le travail effectif de réduction de charge mentale que j'expérimente en ce moment. Mais avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes deniers personnels et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui me soutiennent déjà. La première chose que j'ai mise en place pour réduire ma charge mentale, c'est de rassembler certains sujets sous un thème commun et de les traiter en même temps, plutôt que d'avoir à les gérer chacun individuellement et qu'ils viennent ouvrir un onglet individuel chacun dans ma charge mentale, voyez. Par exemple, j'enregistre ce podcast dans ma journée contenu où je vais venir penser à tous mes différents canaux de contenu, je vais mettre en place le calendrier éditorial et je vais créer autant que je peux dans le temps imparti. Là, il est 16h30, je pense que l'enregistrement de ce podcast, ce sera la dernière création de contenu de ma journée. Et du coup, le fait de réunir sous le thème commun contenu tous les contenus que je crée en tant qu'artiste, plutôt que d'avoir, il faut que je pense au podcast, il faut que je pense à YouTube, il faut que je pense à Patreon, il faut que je pense à mes newsletters, il faut que je pense aux capsules de papeterie, il faut que je pense à la prochaine vente de café aux étoiles. Ben là, non. Là, j'ai un onglet contenu. Je me fais une journée contenu deux fois par mois. Et comme ça, dans ma charge mentale, j'ai seulement à me dire « Ah bah tiens, il faut que je pense à préparer ma prochaine journée contenu. » Voilà, donc le fait de rassembler finalement différents sujets dans un seul grand thème, ça permet comme de rassembler tout dans un seul onglet quelque part, vous voyez. Alors d'autres exemples, un autre exemple de créneau qui rassemble plusieurs sujets communs, ça va être le créneau intendance de la maison, qui contient à la fois le ménage, les draps, la lessive, la liste de courses, les virements bancaires à faire, les choses comme ça. Plutôt que de tout penser individuellement, je me dis tiens, je vais mettre un créneau intendance de la maison, et je vais pouvoir descendre tout ça d'un coup. Et de manière générale, ce qui est la deuxième piste que j'explore qui est liée à la première, je trouve que c'est très efficace de planifier un créneau temporel précis à un projet. Parce qu'en fait, ça rassure quelque part le cerveau de mettre dans l'agenda, tiens, par exemple, vendredi à 17h, je m'occupe des impressions test de papeterie pour ce mois-ci. Bah, le fait de l'avoir mis dans l'agenda, ça autorise le cerveau à plus y penser jusqu'à l'arrivée du créneau en question. Parce qu'il est rassuré qu'on a bloqué du temps pour ça et que donc on peut fermer l'onglet dans notre tête, on peut fermer l'onglet du truc parce qu'on sait qu'on l'a planifié dans l'agenda et qu'on y pensera le moment venu quand ce créneau-là va arriver. Donc, deuxième piste pour libérer de la charge mentale, planifier un temps pour s'inquiéter de chacun de ces thèmes globaux de ma vie d'adulte. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que la charge mentale, c'est une sorte de bruit blanc permanent qui reste dans notre tête quand on a peur d'oublier de traiter x, y sujet. On garde l'onglet ouvert dans notre tête parce qu'on a peur de plus y penser. Et du coup, si on se dit, la question des repas de la semaine et des courses, ça va tout être samedi matin, on sait que c'est samedi matin qu'on va s'en occuper, on peut fermer l'onglet courses et repas avant ce jour-là, voyez. Et du coup, l'idée, c'est que ça permet, en fait, on se donne des rails quelque part en mettant quelques créneaux comme ça dans notre semaine pour avoir l'occasion d'y penser dans le futur et ça nous autorise à arrêter d'y penser ici et maintenant. Par exemple, je planifie un point du mois, un dimanche après-midi par mois, qui va contenir à la fois l'introspection mensuelle, donc comment je me suis sentie ce mois-ci, ce que j'ai envie de faire le mois prochain, etc. Et cette introspection-là, elle découle après sur des contenus point du mois que je publie à droite et à gauche, dans la newsletter, dans le point du mois vidéo, dans le podcast du mois, dans le point du mois de Patreon, etc. etc. Et c'est aussi un moment où justement je demande à mon cerveau de penser à tout ce que je considère comme important pour le mois à venir et de tout noter sur le papier. C'est un créneau qui dure une heure, hein, un dimanche par mois, mais je sais que ce créneau il existe et que du coup tous les mois j'ai le temps de faire le point sur tous ces sujets-là, voyez. Je peux aussi planifier un moment pour faire le point sur tous les sujets liés à la maison, planifier un moment pour mettre à plat les tâches de la semaine pour le studio de jeux vidéo, etc. etc. Comme je vous disais, par exemple, tous les samedis matin, c'est un moment charge mentale des repas avec mon mari, où on cherche des recettes, on liste les ingrédients, on va au marché ensemble pour tout acheter, voir un petit peu ce qui est en saison, etc. Et on va commencer à cuisiner certaines choses à l'avance à ce moment-là aussi. Donc ça, c'est la deuxième piste, mettre des créneaux dans l'agenda dans lesquels on va penser à certains sujets pour s'autoriser à arrêter d'y penser maintenant. Troisième piste, j'ai exploré à nouveau la fameuse méthode GTD, qui signifie Getting Things Done, que je vous invite à découvrir si vous n'en avez jamais entendu parler. Le créateur dont j'ai perdu le nom a publié un livre sur le sujet, et je sais que ce livre a été traduit en français. Et je crois qu'en français, ils ont gardé le titre Getting Things Done, si vous voulez aller voir ce que c'est. L'idée générale de la méthode d'organisation GTD, c'est de mettre en place des outils pour noter ce qui me passe par la tête, pour pas que ça reste dans la tête, pour pouvoir ensuite traiter ces sujets pendant ces moments planifiés dont je vous ai parlé dans la piste précédente, au moment où on s'inquiète du sujet en question. Mettons par exemple, j'ai une idée de vidéo YouTube, et ben l'idée de la méthode GTD, c'est d'avoir un endroit où je peux noter cette idée de vidéo YouTube, et lorsque j'arriverai à mon prochain créneau création de contenu, je saurai où trouver cette idée de vidéo que j'ai notée, pour pouvoir la filmer ce jour-là. En fait, quand vous écoutez les différentes pistes de réflexion autour de la charge mentale, c'est simplement des diverses idées pour sortir le truc du cerveau, en fait, et autoriser le cerveau à ne plus y penser. Et donc la méthode GTD, c'est vraiment un système pour pouvoir noter dès qu'on pense à un truc, dès qu'il flotte dans la tête, pour pas qu'il y reste, pour qu'il sorte de la tête. Donc par exemple, tiens, faut racheter du lait. Tiens, j'ai une petite vidéo pour la chaîne YouTube. Eh bien, avec la méthode GTD, on a un endroit pour noter cette idée. Pour que ça permet de fermer l'onglet dans notre tête. Et ça nous autorise à ne plus y penser. Mais ça, ça ne marche que si ce fameux endroit où est notée l'idée en question, le cerveau a confiance dans notre capacité à y revenir quand on a besoin. Savoir où retrouver l'information au moment où on en a besoin. Donc par exemple, au moment de dresser la liste de courses, je vais savoir où chercher la note « racheter du lait » que j'ai marquée plus tôt dans la semaine. Au moment de planifier le calendrier éditorial de ma chaîne YouTube, je sais où retrouver mon idée de vidéo. En fait, cette méthode, elle ne marche pas si on note les idées partout sur des post-it, etc. et que le cerveau se dit oh, « je vais jamais retrouver mon post-it ». Et du coup, on continue à y penser. Ça ne marche que si on a confiance dans notre système de gestion des notes et des idées, en fait. Et c'est autour de ça que la méthode GTD fonctionne et nous donne des idées pour justement créer un système d'organisation qui est fiable. Et donc cet endroit pour noter les idées, ça peut être par exemple des notes dans le bullet journal, si vous avez confiance dans le fait que vous consultez votre bullet journal au quotidien, ça peut être une liste dans l'application Notion ou dans une autre application de gestion de liste de tâches. En fait, ça, voilà, ça rassure d'avoir un endroit où on peut vider nos idées, les enlever du cerveau, pour que ça ne continue pas à peser sur notre charge mentale. Moi, personnellement, mon système d'organisation des idées à la rentrée consiste en trois outils. Mon bullet journal, qui est un carnet papier que j'utilise avec un stylo, donc analogique. Google Agenda et une application qui s'appelle Todoist, qui est une application de gestion de tâches. Et puis, j'utilise aussi deux autres applications qui s'appellent Notion et OneNote. Mais ces deux applications-là, ce sont des archives d'idées et de ressources, ce ne sont pas des outils d'organisation quotidienne pour moi. On pourra en reparler en détail sur un futur contenu si vous avez envie de savoir quels outils j'utilise et comment. Mais en gros, pour vous donner une idée globale aujourd'hui, Google Agenda me permet de me rappeler de rendez-vous et d'engagements qui ont une date et une heure précises, pour me rassurer que quand je me suis engagée à retrouver quelqu'un quelque part, je ne vais pas oublier parce que mon Google Agenda va me le rappeler. Todoist me permet de noter toutes les tâches dans toutes les catégories de ma vie au moment où j'y pense. Donc j'ai par exemple une catégorie liste de courses dans Todoist, j'ai une catégorie vidéo YouTube dans Todoist. Donc je sais que mes idées et mes tâches sont correctement triées et qu'elles vont ressortir lorsque je vais aborder ce sujet-là, ce créneau-là, où j'ai besoin de l'information. Et enfin, le bullet journal, donc un carnet avec un stylo. C'est un Leuchtturm 1917, mon carnet, si vous avez envie de savoir. C'est un carnet classique, 123 pages, couverture souple, format B6 avec des pointillés, si vous avez envie de savoir très exactement quel est mon bullet journal. Et j'ai toute une vidéo sur YouTube où je vous présente tout ça, si ça vous intéresse. Et donc, ce bullet journal me permet de m'organiser au quotidien, de choisir mes créneaux et de sélectionner mes tâches du jour. Ça, c'était la piste « Getting things done ». Ensuite, une autre piste pour alléger ma charge mentale, c'est d'oser décaler les projets. Donc, c'est l'artiste slow qui parle là. C'est-à-dire que je n'hésite pas à ôter un projet entier de ma charge mentale. Je le décale sciemment à plus tard, que ce soit la semaine prochaine, le mois prochain, la saison prochaine, l'année prochaine. Et je me fixe un moment où je vais reprendre le projet en question pour me rassurer que je ne vais pas l'oublier totalement. Et donc un exemple très clair et concret et pertinent ici et maintenant, c'est que la semaine dernière, j'ai décalé ce podcast à cette semaine. J'ai dit là, j'ai pas le temps de m'occuper du podcast, je décale toutes les tâches à la semaine du 19 septembre et c'est comme ça. Un autre exemple plus long terme, c'est que j'ai décalé la sortie de la collection littéraire Café Lité de la maison d'édition Café aux Étoiles à 2024 parce que là ce mois-ci j'ai un jeu vidéo à sortir pour mon client de communication et puis cet automne il y a toute la collection de papeterie automnale parce que c'est la saison qui m'inspire le plus en tant qu'artiste et que je me suis dit si je me rajoute encore la mise en page des bouquins, comment distribuer un e-book etc, je vais pas m'en sortir, donc je l'ai décalé à 2024. En d'autres termes, ça rejoint la notion de priorité dont je parlais l'an dernier dans mon système d'organisation sereine. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de faire trop de choses à la fois, je définis le projet qui est prioritaire pour moi en ce moment et j'ose décaler le reste à plus tard. Un dernier exemple avec ça, en tant qu'écrivaine, je n'ai qu'un seul projet d'écriture en cours à la fois, qui est soit en cours de premier jet, soit en cours de correction, soit en cours de mise en page. Même si d'autres peuvent être en attente de bêta lecture, par exemple, ou de correction. Et je peux même, dans certains cas, suspendre totalement l'écriture, décaler totalement l'écriture à plus tard, parce que je dois me concentrer, par exemple, sur une collection d'aquarelles ou sur une série de papeterie créative à mettre en vente pour la saison à venir, et qu'en tant qu'artiste, j'estime que j'ai pas assez de bande passante pour m'occuper à la fois de l'écriture et de l'illustration. Enfin, dernière piste pour alléger ma charge mentale, je m'appuie énormément sur des habitudes quotidiennes qui sont devenues automatiques et que je pratique naturellement. Alors ça va prendre de la charge mentale de mettre en place la routine, de l'intégrer dans le quotidien et de la rendre automatique. Mais une fois que c'est intégré, ces routines et habitudes vont venir alléger ma charge mentale au quotidien. Par exemple, le parle-singe matinal, qui consiste à écrire dans un carnet de brouillon tous les matins pour vider tout ce qui me passe dans la tête. J'y consacre 10 minutes chaque matin et ça me vide complètement toutes les pensées du cerveau. Et quand dans ce déversement d'idées, quand il y a des tâches, des choses à pas oublier, etc., ben je vais venir les remettre dans mon système d'organisation GTD pour pas les oublier, voyez. Je consacre également 5 minutes chaque matin et chaque soir pour faire le point sur les tâches de la journée, ce qui est fait, ce qui est à décaler, et dans mon cas je fais ça dans le bullet journal et avec l'application Todoist. Donc 5 minutes le matin quand je commence le travail, 5 minutes le soir quand je termine le travail, et ça me permet de rassurer mon cerveau sur le fait que les choses sont suivies et que c'est ok s'il n'y pense pas en dehors des heures de travail. Voilà deux exemples de routines qui m'aident à alléger ma charge mentale. Pour terminer cette discussion sur la charge mentale, je pense que c'est une notion qui est... Alors, déjà, je vous rappelle que c'est une notion qui est différente de la charge de travail et que cette distinction est importante à prendre en compte quand on accepte une nouvelle mission professionnelle, une nouvelle activité bénévole ou de loisir, un nouvel engagement social, etc. Et je voulais vous rappeler ça pour terminer. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est de ne pas prendre seulement en compte le temps opérationnel que va prendre une activité au moment où on s'engage à le faire, mais qu'il faut prendre en compte la charge mentale qu'elle risque de coûter. Et d'un côté, il y a certaines activités qui vont coûter très peu de charge mentale. On est dans l'exécution de quelque chose, dans un système déjà cadré, avec des personnes qui sont déjà en charge et nous, on a besoin uniquement de faire ce pour quoi on est venu. Par exemple, je vous ai dit que je participe au prix Alain Le Bussy chaque année en tant que jury. Eh bien, c'est notre président qui récolte les textes, qui suit les votes, qui discute avec les auteurs et les autrices. Moi, en tant que membre du jury, j'ai, entre guillemets, juste besoin de lire les nouvelles, fournir mes votes dans le temps imparti et puis d'écrire quelques chapeaux chaque année pour présenter les nouvelles qui sont retenues et que j'ai appréciées. La charge de travail est assez conséquente pendant les semaines de lecture parce qu'on a quand même une bonne centaine de nouvelles à lire chacun. Mais la charge mentale est limitée pour moi. C'est surtout le président du jury qui prend la majorité de la charge mentale du projet, vous voyez. En revanche, et on en reparlera je pense, j'ai remarqué que ma mission de communication principale, celle qui paye les factures aujourd'hui au moment où j'enregistre ce podcast, me coûte immensément en charge mentale et j'ai identifié ça comme une source la source de l'épuisement que j'ai eu en 2022 et une source de problème que j'ai aujourd'hui avec ma charge mentale. C'est-à-dire que la charge effective de travail avec ce client est raisonnable, surtout au vu de la rémunération que j'ai en échange. Parce que c'est un boulot que je fais depuis pas loin de 15 ans. Et du coup, j'exécute ces tâches-là beaucoup plus rapidement, vu que c'est mon cœur d'expertise. Communication dans le jeu vidéo, c'est mon cœur de métier. Et d'ailleurs, j'avais opté de travailler pour ce client après mon burn-out et d'avoir un seul partenaire qui me rapporte plus de 80% de mes revenus pour cette raison. Parce que c'était un excellent rapport charge de travail-rémunération, parce que j'étais payée en tant que senior pour mon expertise, mais que la charge de travail n'est pas très conséquente puisque je suis experte et j'ai l'habitude et du coup j'exécute vite. Mais je commence à m'en rendre compte en faisant un petit peu le point cet été. Je me suis rendu compte qu'au fil des années, la charge mentale que requiert ce client est de plus en plus élevée, même si la charge de travail reste plus ou moins constante en moyenne. J'ai dit en moyenne parce que quand on travaille dans la communication, la charge exécutive de travail fluctue énormément en fait. C'est-à-dire, en quoi la charge mentale est grande, c'est que je dois me rendre disponible selon leur agenda, et finalement j'ai perdu ma liberté de freelance pour devoir être à leur disposition à la manière d'une salariée, puisque je suis payée au forfait pour faire la communication pour le Sud en France. Et puis j'ai dû prendre en charge tout un tas de missions, de tâches et de choses comme ça, notamment l'année dernière en 2022 qui ont participé à mon épuisement, qui était bien au-delà du périmètre de mes tâches initiales de chargée de com, quoi. J'ai dû couvrir le travail d'un collègue qui était absent pendant quelques temps, j'ai dû faire des activités RH pour recruter un nouveau collègue, une nouvelle collègue en l'occurrence en France. Il y a plein de choses en fait que j'ai dû gérer par bout de ficelle, etc. parce qu'il n'y avait que moi pour le faire, alors que c'était pas du tout mon travail et que ça m'a coûté une charge mentale et émotionnelle monstrueuse. Donc du coup, je vous laisse sur cette piste-là, sur l'allègement de la charge mentale, pour alléger ou canaliser la charge mentale qu'on a en tant qu'adulte à un moment donné dans notre vie. C'est aussi important d'évaluer qui ou quoi nous prend le plus de charge mentale et est-ce qu'on est satisfait de ça ou pas ? Est-ce que c'est une charge mentale qu'on a envie d'assumer, qui nous fait plaisir ? Ou est-ce que c'est trop par rapport à ce qui est important pour nous dans notre vie en fait ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une piste pour alléger la charge mentale en se détachant de certaines activités, certaines missions, peut-être certaines relations aussi, qui coûtent davantage en charge mentale ou émotionnelle aussi, puisque les deux sont liés. C'est-à-dire que quelque chose qui est lourd émotionnellement va impacter notre charge mentale, puisque traiter ces émotions-là va prendre beaucoup de place dans nos pensées. Donc, c'est pas forcément évident de se désengager de choses dans lesquelles on est déjà engagé, mais c'est aussi une piste de réflexion intéressante à poursuivre. Voilà les pistes que je voulais partager avec vous aujourd'hui autour de la charge mentale. J'espère que certaines vous seront utiles en fonction de votre situation de vie. Et si vous avez d'autres idées et conseils autour de la charge mentale, n'hésitez pas à partager vos retours avec les autres poditeurs et poditrices en commentaire sous les notes de l'émission sur floriteller.com/BN192, où vous retrouverez aussi le script de cet épisode en PDF. Vous pouvez aussi en discuter sur le serveur Discord de Café aux Étoiles, dont le lien d'invitation est dans les notes de l'émission, ou encore me contacter sur floriteller.com/contact. Pour des réflexions écrites autour de la créativité, la simplicité et le slow, j'envoie une lettre électronique le premier dimanche de chaque mois que vous pouvez recevoir en vous inscrivant sur floriteller.com/lettre. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !